Amis de Radio Occitanie et de la Poésie,
bonjour.
Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, en arrivant dans ce studio, j'ai eu envie de rendre à ma façon hommage à des personnages qui ont beaucoup évolué dans ce studio de la rue de la Salie, ici, de Radio Occitanie, et qui nous ont quittés. Le premier, c'est le capitaine Slam, Thierry Touze, qui venait ici et qui était promis, à mon avis, un bel avenir. Capitaine Slam, il y avait deux poètes qu'il aimait beaucoup, et je l'ai un peu alimenté dans ce domaine-là, en lui passant des œuvres de Jean Follin et de Maurice Fombeur. Alors, on va écouter un poème de Maurice Fombeur qui s'appelle « Variation pour une trompette de cavalerie » qui est chanté par Catherine Sauvage. Et puis, il y a un autre personnage qui venait ici chaque fois qu'il avait un nouveau livre à présenter, un livre d'histoire. C'était un fabuleux historien de Toulouse. Il connaissait Toulouse comme sa poche. Il nous a légué vraiment une œuvre en particulier sur le Toulouse d'entre-deux-guerres et sur les poètes de l'école toulousaine du début du XXe siècle. Il s'agit de Jacques Harlé, le professeur Jacques Harlé, qui était mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux et à qui nous avons rendu hommage il y a quelques mois. Et lui, ce qu'il aimait, c'était Marie-Noël. Et Marie-Noël, c'était aussi la poétesse préférée de ma mère. Alors, nous allons écouter, après Maurice Fombeur, Variation pour une trompette de cavalerie, nous allons écouter Et je causais de moi, Marie-Noël. On y va.
Que vous jetez, ce qui se met le soir aux femmes, qui clôde du bonheur d'autrui, voleur de volailles et de fruits, pour votre rire dans les haies, sans or que brise son droit que d'être, bagarreur des quartiers éteints, qui sentait le sang du prochain, foulain d'enfer aux frénétiques. Qu'importe les murs et les hommes, ce sont des verres renversés, et le plaisir est dans les fossés, à qui tout double au loup de terre, les violeurs des lois et des femmes, ivres de vivre à pas fin temps, vous que l'on pend avant le temps, je n'apprends aux célibataires. Blasphémez quand vos dents sont blanches, jetez votre âme à vos pieds nus. Battez-vous premier qu'on vous tue, comme gibier au coin des rues. Étouffez dans vos bras les ombres, criez Dieu mort et faux l'amour, brisez comme paille les jours, enfants nés pour la fin du monde.
À la manufacture, je travaillais bien sagement. Lui à Saint-Charles, sans coupure, se défendait je ne sais comment. C'était un gosse de la Martiale, c'était un petit môme bien fringué. Et si j'en parle, c'est qu'à Saint-Charles, près de la caserne, je l'ai rencontré. Oh, comme je l'aimais, comme on s'aimait à la belle de mai. Dès que je l'ai vu, J'ai tout de suite su que je m'appartenais plus. Il m'ensorcelait, me possédait toujours comme il voulait. Je me suis mise en brème, car si l'on aime, on ne sait plus ce qu'on fait. Mais à trop faire le mariole, ça ne pouvait guère rapporter. Avec d'autres miroirs à cagole, à Saint-Jean, on l'a convoqué. Je lui ai refilé ma dernière thune, on a de l'honneur dans la maison. Cette Niston fait une fortune, disaient les mômes du bataillon. Oh, comme je l'aimais, comme on s'aimait à la belle de mai. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite su que je m'appartenais plus. Il m'ensorcelait, me possédait toujours comme il voulait. Je me suis mise en brème, car si l'on aime, on ne sait plus ce qu'on fait. Il m'écrit de foule tataouine que c'est un bien triste patelin. Je monte ses lettres à mes copines, il monte les miennes à ses copains. À la belle de mai, on assure que je suis doublé. Et comment? Par une ordure, une roulure, une sorte de Fatma à la flanc. Oh, comme je l'aimais, comme on s'aimait à la belle de mai. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite su que je m'appartenais plus. Il m'ensorcelait, me possédait toujours comme il voulait. Je me suis mise en brème, car si l'on aime, on ne sait plus ce qu'on fait. Si c'est ça le genre de l'Afrique et la morale de cet tapin, on se fout de la République. Moi je ferme la banque et je passe la main. Tu peux l'appeler, je m'en balance, Meriem Sapov ou Khedija. Fais du kiff à ton retour en France, tu verras comment ça se passera. Des hommes, j'en connais, des vrais de vrais à la belle de mai. Ceux du bataillon rengraciront pour tâter mon pognon. Tu m'as fait des traits, ça c'est parfait, mais faut régler les frais. Quand on est en brème, on sait tout de même à peu près ce qu'on fait. Oh mais...
Bien, alors c'est Catherine Sauvage, c'était pas tout à fait ce qui avait été annoncé, mais bon, c'était bien agréable. Catherine Sauvage qui a beaucoup chanté les poètes, dont nous verrons la prochaine fois. Il y a une petite erreur avec, je pense, les CD. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mylène Tournier. Alors, Mylène Tournier, elle a eu un prix de poésie, elle a été lauréate de l'Académie des Jeux Floraux l'année dernière, donc en 2024, pour un recueil qui s'appelle « Et m'ont murmuré ». Non, ça c'est le dernier, pardon. Un recueil qui s'appelle « Ce que m'a soufflé la ville ».« Ce que m'a soufflé la ville ». Le présent, c'est ce qui interrompt la mémoire, dit-elle. C'était publié au Castor Astral, poche poésie. Alors nous avons eu le plaisir de la recevoir, de lui remettre ce prix. Mylène Tournier, donc, qui occupe une place tout à fait remarquable et singulière dans l'histoire de la... et de la poésie ultra-contemporaine, de la poésie vraiment d'aujourd'hui, puisque ben, c'est une, elle vit avec son temps, donc ça veut dire qu'elle elle réalise des vidéo-poèmes sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, et en particulier sur YouTube. Elle est née à Nice en 1988, Michèle Tournier. Elle a fait des études théâtrales et elle est même docteur en études théâtrales et elle est professeure documentaliste. Et elle réalise, donc, vous disais-je, donc, des vidéos-poèmes sur YouTube. Et également, elle, vous pouvez avoir accès à ces poèmes avec Facebook. Alors, elle est notamment l'autrice de Et puis le roulis. Alors ça, c'est du théâtre, c'est aux éditions théâtrales. Nuit, la petite Hélène, éditeur. Les poèmes d'époque, alors ça c'est un polder édité par Claude Verset, donc tout petit, ce sont de toutes petites publications très agréables. Et puis elle a eu le prix de la Société des gens de lettres avec un recueil qui s'appelait L'autre jour, c'est la révélation de poésie, donc c'était en 2021. Je t'aime comme et ce que tu n'es grandir. Et puis, elle a eu ce que m'a soufflé la ville, lui a valu donc le prix de poésie de l'Académie de Jeufleureau de Toulouse. Et je vais donc vous lire des extraits de ce recueil, ce que m'a soufflé la ville. Et elle réitère, donc chez le même éditeur, le Castor Astral, Poche Poésie, elle réitère Michel Tournier avec un nouveau recueil qui s'appelle « Aimons murmurer les campagnes ». Donc on passe, et il faut avoir les deux pour voir un petit peu comment se situe ce trajet de Mylène Tournier qui va de la ville, ce que m'a soufflé la ville, à la campagne « Aimons murmurer les campagnes ». Alors, le ton va être le même. On va retrouver la même démarche, la même posture dont je vais vous parler. Mais au préalable, je vais vous parler du premier recueil pour mieux peut-être apprécier aussi le deuxième. Alors, Michel Tournier, il y a Xavier Houssain dans le journal Le Monde, le critique poésie du journal Le Monde, qui dit « Michel Tournier rassemble une foule d'éclats, de brefs instants de vie arrachés au quotidien. C'est une grande beauté, d'une grande justesse. » Et effectivement, on est là, dans ce mouvement que l'on a appelé, il y a une vingtaine d'années, la poésie du quotidien. Alors, c'est aux poésies du quotidien. Beaucoup de poètes, d'ailleurs, d'Occitanie, pratiquent consciemment ou inconsciemment cette poésie du quotidien. Je pense un peu à Casimir Pratt, à Georges Catalot. Cette poésie du quotidien, elle s'attache, évidemment, Muriel Mondelli, qui vient de rentrer aussi à l'Académie des Jeux Floraux, elle s'attache à rechercher, avoir cette quête du poème dans la vie, je dirais, ce que l'on appelle la vie ordinaire. Et, bien entendu, ça veut dire que, comme je le répète très souvent, aucun domaine n'échappe donc à la poésie. Mais il ne suffit pas d'avoir ce regard aigu d'observation pour que le poème naisse de l'observation de la vie du réel que l'on a immédiatement sous les yeux ou dans ses oreilles. Il suffit de se promener. Non, c'est par la transformation de la langue, ce que le langage va faire de ce qui a été vu, entrevu, écouté. Et c'est cette transformation qui va donner, évidemment, le poème, et qui va donner à cette marche, par exemple, de Mylène Tournier dans la ville, dans ce recueil, ce que m'a soufflé la ville, qui va donner, donc, un flux ininterrompu de poésie. Le mieux, c'est d'écouter la préface de ce premier recueil, préface de Azélie Fayolle. « Ma chère Mylène, elle s'adresse à elle. Dire quelque chose de ta poésie à propos de ta poésie est une tâche dangereuse, tant elle navigue entre l'évidence de sa beauté et le décalage perpétuel qu'elle renouvelle, comme un pas de côté que tu nous proposes de faire à sa suite. Je relève pourtant le gant et la plume. Honoré par ton invitation, effrayé par le vertige d'une poésie qui pourrait sembler à ras du sol quand elle rase plutôt les murs de la ville. Ta poésie, Mylène, me semble prolongée, mais dans la joie, le spleen de Paris, de Baudelaire. Tu es une poétesse de la ville et souvent de la ville heureuse. Il faut peut-être imaginer heureux le poète de la modernité. Mais cette joie n'est jamais une béatitude naïve ou un ravissement extatique. Elle est le bonheur d'aimer, de marcher dans la ville et d'écrire. Je t'aime pour marcher, je marche pour écrire, pourrais-tu déclarer en tendant ainsi la main à Éluard. Mais ce bonheur simple, qui toujours s'échappe quand on le fixe par des mots, se représente et se ressent dans ta poésie. Ceux et celles qui te suivent sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Facebook, savent à quel point ton écriture épouse ta marche. Elle est d'ailleurs prouvée par les partages de photographies de ton podomètre aux impressionnantes distances enregistrées. L'écriture par flux, quasi en direct, se retrouve ou diverge dans tes vidéos-poèmes, nourrie aussi de tes pérégrinations. Tes recueils peuvent reprendre ces poèmes, mais ils n'en sont pas une compilation. Tu montres les étapes d'une écriture poétique, toujours en évitant le brouillon qui te mène vers l'épure et la composition. Ce que m'a soufflé la ville, c'est le titre de ce recueil, prolonge une écriture urbaine que tu explores depuis tes premiers recueils. Il n'est pourtant pas le nouvel épisode d'une vieille série. Il appréhende plus d'eau une nouvelle façon d'habiter la ville, amoureusement et dans la perte de cet amour. Tu pars de toi et vas au réel en nous y invitant. Le poème, bref comme un haïku, qui ouvre son recueil, rappelle la dimension existentielle de ce qui n'est pas une simple balade urbaine. Je savais, vie et mort sont là, le reste n'est que le réel. Ce que je viens de lire, « Je savais, vie et mort sont là, le reste n'est que le réel », constitue un poème, un seul poème. Écris-tu, comme pour nous rappeler que ce qui est inconcevable se niche aussi dans l'arpentage quotidien. L'amour en ville, celui de la voix qui dit « je », celui des autres, croisé au hasard des rues, de tous ces amoureux qui s'embrassent debout aux portes de la ville, structure ton recueil avec la fragilité d'une canne qui pourrait chuter, l'étreinte de rue est aussi, sous ta plume, une étreinte poétique qui laisse place à la solitude très relative, provisoire, du selfie. Le long silence du train, c'est le bruit de la ville qui le comble, et le bruissement de ta poésie qui le fait entendre. L'hyperacuité de la voix amoureuse est peut-être d'abord une attention aux autres, qu'ils soient partenaires, passants ou bris de la cité. C'est cette ligne double que je crois voir se déployer dans ce que m'a soufflé la ville. L'amour et la ville, et la rupture qui se vit dans l'exploration spatiale comme temporelle. Il y a l'amour en ville, l'amour et la ville, et ce que leur séparation fait à l'exploration poétique dans des poèmes non solitaires, mais d'une urbanité qui découpe en creux les contours de ce qui pourrait être une solitude. Des vignettes de la ville, parfois des historiettes ou bribes d'anecdotes happées au vol, comme les faits divers en trois lignes de Félix Fainéant, laisse imaginer un regard non seulement attentif, mais aussi imaginatif, ouvrant la possibilité de récits, parfois seulement esquissés. La profusion n'est pas une accumulation. Et il ne s'agit pas non plus d'égrener des poèmes comme des visions qui se succéderaient dans les souvenirs des soirées diapo. La poésie d'abord est un bond, écris-tu, en imaginant les livres à ramener à la fin de l'été. Ce bond, c'est celui qui joint des poèmes apparemment disjoints et qui relie les différents tableaux. L'exploration n'est plus urbaine, elle n'est pas seulement amoureuse ou déçue, elle surimprime et lit des instantanés d'une vie qui se réinvente. Aux bribes de récits et d'anecdotes répond ainsi le parcours d'un jeu, J-E, poétique, qui doit se recomposer à partir d'une rupture, qui est aussi une rupture ontologique et poétique. Ta poésie incorpore cette rupture, tout en la diffractant, reflétée dans les images de la ville. La ville s'ouvre, ainsi comme on déplie les pages d'un journal par des jeux, G-E-U-X, par des jeux de juxtaposition, qui sont ceux qu'offre la marche attentive au monde. Le rythme de tes vers est celui des pieds du regard, auquel s'ajoute régulièrement la litanie de la voix marchante, regardant le monde et chantant en dedans. Le rythme de la marche prépare la prosodie, la ville se fait signifiante, et tu nous offres son spectacle quotidien. Si tu nous partages le spectacle de la ville, tu le fais sans naïveté. Ce que m'a soufflé la ville est aussi le parcours autour d'une absence, d'une voix poétique dépossédée et rompue. La rupture est ce qui souffle cette voix autant que ce qui en reste de souffle et de murmure. L'attention que tu portes aux tragédies et à leur grandeur banale te permet de forger un lyrisme urbain qui dit la perte par un déplacement d'amour qui nous rappelle que la poésie déplace les chagrins. Je t'embrasse fort, poétiquement, comme tu embrasses la ville. Signé Azélie Fayol. Voilà. Je suis tenu à lire cette préface, même si elle est un peu longue, parce que vraiment, je trouve qu'elle est parfaite et qu'elle explique vraiment bien toute la démarche, toute la posture, tout le talent. Et la réussite en définitive de cette écriture poétique basée donc sur la marche dans la ville et sur une réalité qui s'offre à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pourrait écrire comme écrit Mylène Tournier, pour peu bien entendu que l'on sache pouvoir avoir cette sincérité de la langue et ce regard aiguisé des choses, cette sensibilité qui nous fait retenir et voir ce qui ne paraissait pas au premier abord et ce qui évidemment se cache dans cette vie du quotidien qui a aussi sa grandeur, parce que la vie du quotidien relate toujours la destinée de quelqu'un. Écoutons-la, Mylène Tournier, ce que m'a soufflé la ville. J'ai posé longtemps les mains à mon crâne. Je savais. Vie et mort sont là, le reste n'est que le réel. Et c'était quelque chose comme touchant ou professionnel ou digne que la caissière, après notre conversation tutoyée sur le soleil au pays, la location des 100 euros. Et tu viens à la maison, je te fais le couscous. Je dis chaque fois oui. Mais tu sais, je crois que c'est comme non. Comme je sais aussi que c'est un couscous, juste pour dire. Et est-ce que tu connais pas une fille pour mon neveu ? Mon neveu, mais comme mon fils. Une comme toi. Une française, une sérieuse. Qu'après donc, en mon « bonne journée », elles me répondent comme à une cliente. À vous aussi. Voilà, une scène de la vie quotidienne, une scène que tout le monde a vécue. Petite conversation sous le ton badin, mais enfin avec toutefois l'expression de quelque chose de grave. Cette caissière qui, bon, elles ont un peu sympathisé, qui lui dit est-ce que tu connais pas une fille pour mon neveu ? C'est quand même extraordinaire de pouvoir placer le neveu comme ça avec une cliente qui passe à la caisse en lui disant bon, mais tu vas venir manger le couscous, en étant bien sûr qu'évidemment elle refuserait, et que, comme elle dit, c'est un couscous juste pour dire. Voilà, ce sont ces scènes-là qui fait cette poésie, qui est cette poésie contemporaine, hyper contemporaine, mais qui, dont tout le monde est sensible à ça. Tout le monde, parce que tout le monde a vécu ça. J'ai souri à la fille dans le bus qui pleurait, sans savoir que la semaine d'après, ce serait moi. Voilà, trois vers, une scène. Alors, je finis ce poème quand même. C'est vrai alors que la réincarnation existe. Alors voilà, une scène, et sans savoir après que ce serait moi, et cet humour qu'elle a, cette dramatisation qu'elle a toujours quand même, et qui rend effectivement cette écriture, qui est une écriture profonde, et qui rend la lecture quand même légère. Hein, c'est un vrai tour de force de pouvoir dire des choses graves comme ça, parce que bon, ce qu'elle dit, c'est quand même assez grave. Quelqu'un qui pleure dans le bus, hein, c'est arrivé à tout le monde de voir quelqu'un avoir du chagrin, ne pas pouvoir retenir ses larmes, même dans l'autobus. Et bon, et puis se dire, ouais, mais la semaine d'après, ça va être moi, c'est-à-dire que ce qu'elle a vécu, ben, moi aussi, je vais le vivre. Et elle parle de la réincarnation, donc elle replace ça sur le plan de l'autodérision, qui est la plus belle forme de l'humour. Écoutons-la encore, Mylène Tournier. La cliente a fait la boulangère tâter toutes ses baguettes. Mais celle derrière me semble plus croustillante, non ? Et pour chacune avait un mot. Ainsi sera-t-on, si mort en existe, tâté et jaugé à l'entrée claire, parfaite et cuite d'un ciel doré. Voilà. Encore une scène de la vie courante. Des clients qui veulent vraiment une baguette qui corresponde vraiment à ce qu'ils ont, une baguette presque idéale. Voilà, ils cherchent toujours cet idéal. Et elle va quand même plus loin, parce qu'elle dit, si mort on existe, tâté et jaugé, hein, à l'entrée claire, parfaite et cuite, un ciel doré, donc toujours cet humour-là, qui est un humour noir, mais qui est aussi cette dérision de soi, et qui fait vraiment la force de ce poème. Et puis plus loin, on écoute. De Bulgarie, il y a 8 ans. Il y a des problèmes là-bas, c'est pour ça qu'il ne retourne pas. Mais sinon, il y a des bus qui y vont. Je suis venu pour regarder, il dit. Et quand je lui ai demandé avec qui il est venu, je suis venu avec tout seul. Il dit... Je prie, ça me fait plaisir. Il dit, je fais à l'église de Saint-Sulpice, ou alors à la chapelle de l'Adoration. Je lui demande s'il prie tout fort. Il dit non, dans la tête, mais avec la bouche. Il faut prononcer avec les lèvres, même si silencieusement, sinon c'est dégoûtant de dire sans ouvrir la bouche. Il dit, ici, il y en a une, elle vient avec sa valise pleine de pain nourrir les pigeons, tous les matins. Et elle croit qu'elle donne la vie, mais elle n'a aucune vie privée. Et qu'à Boston, quand il y était, il mettait des amendes aux gens qui nourrissent les pigeons. Il ne faut pas être serré proche avec les pigeons. C'est des oiseaux qui sont pollués. Voilà. Une scène encore de la vie courante, avec cette langue. Elle a pris la langue de la trivialité, la langue de l'oralité. Et c'est très difficile de réussir un poème avec ce parler, justement, ce parler chaotique, donc de ce bulgare-là qu'elle a rencontré il y a 8 ans. J'ai ma fille et mon petit-fils qui viennent déjeuner ce midi, a dit, en lui montrant son grand saumon fumé sous vide, aux caisses automatiques du carrefour, la vieille dame, au garçon, là, pour vérifier et montrer lorsqu'il faut, parfois, passer par article sans code barre, ou rassurer, les réductions apparaissent à la fin. Le saumon, c'est tout entier pour mon petit-fils. Ma fille, je lui ai fait des œufs au lait. Et sinon du poulet, voilà, du poulet froid, hein. Mon petit-fils, je ne croirais pas qu'il viendrait. J'ai dit à ma fille, s'il veut pas, tu le forces pas. Juste rentré de vacances chez sa grand-mère, il y a mieux comme retour, mais faut croire qu'il aime mon poulet. Et le garçon devait, à force de course, connaître, mais surtout retenir, beaucoup de sa vie, car il a demandé. Le petit-fils qui était en Bretagne, à quoi elle a acquiescé, oui, lui. Voilà, une scène que tout le monde a vécue. C'est cette cliente qui se confie au serveur, au boucher, qu'elle ne voit d'ailleurs qu'à cette occasion-là, mais à qui elle raconte sa vie. Et le boucher, eh bien, il se souvient. Il a enregistré. Ça veut dire qu'il n'a pas été indifférent à sa cliente, à ce qu'elle disait de sa vie personnelle, puisqu'il a retenu ça. Et il lui permet même de pouvoir rebondir sur les soliloques là de la cliente qui raconte sa vie. Parce que elle a certainement pas trop l'occasion, cette grand-mère, de raconter son quotidien. Tes joues sous la lumière, ta capuche noire comme celle qu'on mettait au-dessus des appareils photos autrefois. On s'est retourné l'un l'autre, chacun de son côté. C'était fini, le siècle d'aimé. Et puis, elle est sujette à écrire ce qu'elle appelle journal ouvert. Alors, tout le recueil, là, ce recueil, ce que m'a soufflé ma vie, est jonché de ce fameux journal ouvert, on va le retrouver, et ce sont des textes un peu plus longs, des poèmes en prose un peu plus longs, et un genre donc qu'elle a cultivé, le genre du journal, mais vous allez voir, c'est quand même très, très différent. J'ai marché jusqu'à la bibliothèque Melville, ouverte le dimanche. J'ai pris 10 petits livres noirs de la collection Photos Poche d'Actes Sud. La bibliothèque est vitrée, pour en bas voir les gens. Je les ai feuilletés un par un. Je ne sais plus du tout lire un livre. J'aimerais écrire un livre qui soit comme la collection entière des Photos Poche. Un livre. Avec le risque du temps, mais pas le risque de la mort. Parce que j'aurais déjà renoncé à quelque chose d'immense pendant la vie, depuis la vie. Et même si ce quelque chose auquel j'ai renoncé me fait me demander si j'ai droit de rester sur Terre. Mais alors, si je reste, on est humain idiot, qui prenons des décisions, qui nous prenons des décisions, et nous y tenons, avec sérieux et gravité. Mais parce que cette gravité est celle qui nous permet le matin. Un livre, comme la collection entière des photos poches, avec Brassailly, avec Nan Goldin, avec Isis et Cartier-Bresson, avec les noirs et blancs des bérets et les titres « Soldats américains dans un établissement de plaisir », avec le Paris de Doineau ou Bouba, et le Londres sombre comme Liverpool ou frais, comme un parc l'été ou un commerce le matin, avec le reportage au Liban de Pardon, et l'agence Magnum avec le New York d'Arbus, ou Maple Source, et l'Amérique de Evans, le Japon d'Araki, et les photos qu'on a de Picasso avec les saluts, les famines, et les aubes de Salgado avec les chiens sur les chaises, le couple âgé dans la nacelle du carrousel, et les enfants qui soulèvent de l'argent avec un vieil homme qui se penche sur le dossier de sa chaise, assis sur le côté, la photo est de dos, il a transpiré, il doit être assis là depuis un moment, parce que la sueur a séché, laissant une grande trace, le plus jaune possible que peut faire un noir et blanc. Lower East Side, New York, 1960. Mylène Tournier, ce que m'a soufflé la ville. Dans l'église, crâne plissé de bagnard, gros pansement sur les deux genoux et débardeur d'été plein hiver, il faisait deux très grands signes de croix, je veux dire comme si vraiment pour que Dieu le voie. « Je suis un vieillard !» a réclamé dans le métro un siège, le vieillard. Voilà. Qui n'a pas vu un vieil homme, effectivement, arriver et demander dans le métro ou dans le bus de pouvoir s'asseoir. Voilà. Les hommes fument debout et haussmanniens, qu'on voit depuis le bus, si pareil aux peintures d'hommes fumant, debout devant leurs fenêtres, qu'il doit y avoir sans cesse un peintre quelque part, caché, et pour qui les hommes debout et haussmanniens posent et fument. L'oiseau a sifflé en plein Paris, trois petits coups vifs, et l'enfant lui a répondu. Et l'oiseau à nouveau a sifflé trois petits coups encore. Et l'enfant lui a répondu. Et l'oiseau encore une fois. Et l'enfant, cette fois-ci, osa, ne sifflait pas. Et ainsi. Voilà. C'était donc Michel Tournier, ce que m'a soufflé la ville. Et Michel Tournier, donc, qui réitère en recueil, qui a pour titre cette fois-ci Aimons murmurer les campagnes, c'est toujours au Castor Astral en Poésie Poche. Et cette fois-ci, donc, c'est Antoine Mouton qui lui a fait la préface, et c'est aussi une préface vraiment qui est fort belle, d'autant plus que elle est faite un peu forme de poème. Donc je crois, est-ce que je vais avoir le temps? Oui, je vais avoir le temps. Je vais vous la lire. Michel Tournier vit quelque part entre ses deux oreilles. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'y tenir, dans cette zone fragile où le monde nous vient. Souvent, on se garde bien d'écouter. Et même quand on écoute, on se défend d'entendre. Mais Michel Tournier entend bien. Ça se lit partout dans ses poèmes. Ça fait le bruit du monde qui vient. Ça fait aussi le bruit du monde qui passe. Ce livre de Mylène Tournier que vous tenez entre les mains commence dans les cimetières et finit dans les trains. On y apprend à voir les choses finir, pas demeurer telles qu'elles étaient. Même un père, même une mère, tout finit. C'est à craindre. Dans ces poèmes, il y a des morts. Et des morts de toute taille. La mort des parents, très présente, menaçante, et d'autant plus poignante pour celles et ceux qui ont lu, et là il fait allusion évidemment à un recueil antérieur, se coltiner grandir. L'amour de Dieu ou de l'idée de Dieu. L'amour des vieilles et des vieux. Quelques ruines des vies passées, boutiques abandonnées, chemins que plus personne n'emprunte. Et puis des morts plus minuscules. Les morts de feuilles mortes, et tout ça qui se juxtapose forme un panorama des finitudes, comme un cimetière immense avec des bosses et des perspectives déformées par l'affection plus ou moins forte qu'on porte aux uns, aux unes, aux autres. Tout fait contraste dans ce recueil, où les poèmes miniatures se collent à des récits plus longs, parfois nommés journal ouvert, comme celui que je vous ai lu précédemment dans le recueil « Ce que m'a soufflé la ville ». Et on va retrouver ce genre-là, donc. Et des terreurs traversent. Ma mère ressemblera-t-elle un jour à cette dame qui ne picore qu'à midi et à qui la mairie porte son repas et dont je parlerai dans le bus, à même pas une amie. Des joies aussi. Des étonnements, des larmes. Tout peut tourner très vite d'un bord à l'autre de l'émotion. C'est une météorologie instable, Mylène Tournier. Il n'y a plus de saison depuis longtemps dans ses poèmes. On avait surtout vu Michel Tournier marcher dans les grandes villes à vive allure, hein, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Ici, elle parcourt les campagnes. Elle raconte les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font plus. Elle les met dans ses poèmes et on devine le village autour d'eux. Parfois, Michel Tournier ne voit personne, cherche seulement la boulangerie, mort dans le quignon, et c'est fini. L'appétit se porte où il peut. Michel Tournier écrit qu'un oiseau mort a été baptisé par un enfant, testeuse de ciel. Je crois que Mylène Tournier est une testeuse de monde. Quand on la lit, on dirait une personne qui cherche un coin, un bon endroit qui lui plairait, mais qui ne saurait pas se décider. Une personne qui se positionnerait quelque part, écouterait, observerait, et lancerait son poème dans l'espace, comme on crierait pour révéler l'écho, et détalerait aussitôt. Testeuse de monde, lectrice de paysages. Mylène Tournier lit tout ce qui l'entoure. Sa poésie est littérale. Elle recopie les mots du monde. Les mots viennent comme ils peuvent, par les oreilles ou par les yeux, sans s'être endimanchés en costume de discours, sans jouer le jeu du point de vue. Parfois, il reste un peu muet, opaque, insensé. D'autres fois, il crie. Mylène Tournier recopie les enseignes, les panneaux, les paroles au passage, les petits mots dans les livres d'or, comme une chercheuse dont le corpus serait exclusivement composé des phrases tracées dans le sable à marée basse sur les grandes plages, et qui étudierait ça, peut-être pas avec trop de sérieux, mais avec la croyance que quelque chose, à chaque fois qu'un peu de langage apparaît, tente de se dire que partout où un mot est écrit, un esprit se manifeste. Jésus, je veux réussir à dormir dans ma chambre, avait écrit l'enfant dans le livre d'intention de prière. Le monde est souvent drôle quand on le lit chez Mylène Tournier. Même quand il est terrible, il est drôle. Et pourtant, sa violence n'est pas niée. Ses béances ne sont pas comblées. Ses monstres surgissent tout le temps. Il faut décrire beaucoup, je crois, s'astreindre presque. Et puis un soir, ne plus tellement. Mylène Tournier saisit et soudainement relâche. Il y a ces deux mouvements dans ses poèmes, la prise et la déprise. Elle n'y enferme pas le monde. Elle l'attrape, le pince un peu, le tord, le plume, le croque, et puis le relance. Elle ne joue pas l'éternité. Elle préfère les passages. Saisir en passant ce qui passe aussi. Sans prétendre que ça restera pour toujours. Et chaque poème demande « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et chaque poème demande aussi, par en dessous, « Comment ça va me passer, le goût d'ici ?» Comment passer à travers ce qui passe? Qu'est-ce qui lui passe à Michel, Mylène Tournier, qui n'arrête pas de s'arrêter et qui pourtant ne s'arrête jamais? Un poème court ou long, tendre ou macabre, toujours poignant. Un poème avec une oreille de chaque côté pour traverser. Voilà. Préface de Antoine Mouton. Écoutons Mylène Tournier dans « Et m'ont murmuré les campagnes ». C'est le matin lent à ramener la terre. Le jeune fait la conduite accompagné dans les allées du cimetière. Il ne tuera personne. Voilà. Toujours cet humour. La route enlacée passait devant l'étable, avec son chien sec et ses chats, félins de paille qui trouvaient moyen étrange d'être gros avec peu, comme on rallonge le soir à l'eau son velouté. L'étable jouxtée, on ne voyait qu'après la grange brûlée qu'on avait laissée en l'état. Et l'incendie alors, autant que le lacet calme, donner idée de la paix des choses sur lesquelles du vent et du feu ont soufflé et demeuré telles. Aurons-nous encore l'enroulement des saisons comme nos grands-parents qu'on a vu vieillir tôt mais rester dans le verger longtemps, ou simplement ces petits jours semblables d'épaules douloureuses, de dettes et de pluies lourdes. Le très vieux monsieur dit préférer manger ça que des pilules. Devant sa table nappée de papier journal, entre ses cinq coups doigts pendus. Si tu regrettes quelque chose, que ce soit avec la tranquillité du paysage à venir, dans la fenêtre de train seulement, quand c'est ton tour, rien ne double rien, tout est là, dans une gloire rectangulaire. C'est la seule chose comique que le fils a connue de son père. Alors qu'il était si grave à la maison, dans la voiture, son père jouait à klaxonner et saluer au bord des routes ou dans les villages des gens qu'il ne connaissait pas. Ça faisait rire le fils. Imaginez le soir, les gens se demandaient qui a bien pu. Le fils est devenu père à son tour. Il klaxonne et c'est le seul à rire. C'est que c'était une blague de village alors. Une blague d'avant. Voilà, une scène du quotidien, une réflexion du quotidien où on retrouve là donc la différence des mœurs. Voilà, je reviendrai peut-être sur ce très beau recueil de Mylène Tournier, son dernier, « Et m'ont murmuré les campagnes ».« Et m'ont murmuré les campagnes » ou « Ce que m'a soufflé la ville », deuxième recueil, qui sont tous les deux au Castor Astral dans la collection Poche Poésie. Et le premier, « Ce que m'a soufflé la vie », vaut 9 euros et l'autre vaut 9,90 €. Voilà, il y a un petit peu d'inflation entre les deux. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous disons bonne semaine à l'écoute de Radio Occitanie et à la semaine prochaine à 10h.